Bonjour chers amis, je suis vraiment heureux d'être avec vous, et particulièrement heureux aussi de pouvoir passer du temps en ouvrant la parole de Dieu, réfléchir ensemble sur un sujet qui vous avait été donné, qui est le suivant, où est Dieu dans un monde en crise? Il suffit d'un rien pour que la vie bascule. Et dans ce cas-là, bien évidemment, beaucoup de questions se posent. Dans ce cas-là, il est temps d'avoir une bonne assurance. Et ça me rappelle une petite histoire, c'est cet homme qui se promène le long d'un ravin, tout d'un coup, il bascule, mais il arrive, juste avant de tomber, au fond du ravin, il arrive à se raccrocher à une petite touffe d'herbe, et il est là, il s'accroche à sa touffe d'herbe, et puis il crie, au secours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Et puis il crie encore, au secours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Il entend une voix, moi je peux t'aider. Mais qui êtes-vous? Je suis Dieu, moi je peux t'aider. Un peu soulagé. Le bonhomme, ben oui, mais qu'est-ce que je dois faire hein? Tu dois absolument me faire confiance, et tu dois avoir en moi une confiance absolue. Tu es d'accord? Oui, oui, pas de problème. Eh bien alors, tu vas commencer par lâcher cette petite touffe d'herbe. L'homme réfléchit quelques instants et dit, au secours, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Vous savez, quand on est placé dans certains moments de vérité, on a encore des hésitations, même lorsque Dieu est prêt à nous tendre la main, même lorsque nous sommes prêts à plonger au fond du ravin. Et c'est un moment de fête que nous vivons, c'est une fête de la moisson, ce n'est pas mon intention de gâcher la fête, mais ça me rappelle aussi une autre histoire vécue, dramatique, récente, le 13 janvier 2012. Rappelez-vous, c'était le moment où les passagers du Costa Concordia, ce paquebot de croisière, était en train de faire la fête. Il faisait la fête, et puis, en un instant, le bateau a heurté un rocher, a basculé, et pour toutes ces personnes qui s'amusaient, c'était la fin de la rigolade, la croisière ne s'amuse plus, c'est devenu la croisière de la mort, pour reprendre un titre qui a été donné par les médias, et il a suffi de quelques minutes pour passer du rire aux larmes. J'ai lu ce témoignage sur Internet. La vie bascule parfois en une seconde. Personne n'est à l'abri. Ça vous touche directement, mais ça bouleverse aussi votre famille entière et vos proches. Au cours d'un accident de voiture dont j'étais passager, écrit cet homme, mes vertèbres cervicales ont été luxées. Les dommages causés à la moelle épinière me laissent encore 10 ans après, dont 1 an et demi d'hospitalisation. Tétraplégique. Paralysé de tous les muscles sous les épaules. Depuis, ma vie est entièrement bouleversée, mes rêves brisés, j'ai dû faire le deuil d'une carrière de joueur professionnel de golf qui s'annonçait prometteuse, ainsi que de l'existence qui allait de pair, tout comme de mes nombreux loisirs, chasse, pêche, bateau, plongée, ski, peinture, fini tout cela. Et cet homme ainsi raconte qu'en un instant, sa vie a basculé. Et nos vies sont parsemées de crises, et aux crises de la société que vit la société s'ajoutent aussi nos crises personnelles. Et nous vivons dans un monde qui est ébranlé, un monde qui est inquiet, un monde qui est désemparé. L'humanité danse au bord d'un volcan, a dit quelqu'un. On n'est plus sûr de rien. Le travail est incertain, le mariage est incertain, l'épargne est incertaine, la sécurité des villes est incertaine, l'avenir du pays est incertain. Il y a tant d'incertitudes dans notre vie quotidienne. Et Dieu, dans tout ça, où est-il? Que fait-il? C'est une question qui peut nous faire mal. Et plus particulièrement cette question, où est Dieu quand rien ne va plus? Certains nous disent que le silence de Dieu, c'est déjà une réponse, que ce silence serait la preuve que Dieu n'existe pas. Et une autre réaction qu'on entend souvent aussi, ben, si Dieu n'est pas présent au moment où j'ai le plus besoin de lui, c'est parce qu'il ne peut rien pour moi. C'est vrai que la question est difficile, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se contenter d'une réponse facile. Et je vous propose d'ouvrir la Bible pour trouver la réponse à cette question. Si nous acceptons le principe que Dieu a créé des êtres humains pour communiquer avec eux, il nous a créés, nous, en tant qu'êtres humains, comme êtres relationnels, êtres communicants, alors forcément, la réponse à cette question ne doit pas être impossible à trouver. Et s'il existe bien un endroit où Dieu nous permet de trouver des réponses à nos questions fondamentales, c'est dans ce livre, la Bible. Alors, où est Dieu? Nous allons voir dans le passage que nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 18, qu'une femme s'est aussi posé cette question le matin de Pâques. Son récit, le récit de cet épisode de sa vie intervient juste après la crucifixion de Jésus. Deux jours plus tôt, Jésus-Christ a été cloué sur une croix comme un malfaiteur, un criminel, alors qu'il n'avait rien fait de mal, et sa dépouille a été ensevelie dans un tombeau. Pour le dire crûment, on a fait une croix sur Jésus, et on a refermé le couvercle pour être débarrassé de lui définitivement. Pensez ces gens. Fini, terminé, plus d'avenir, ni pour lui, ni pour tous ceux qui ont mis leur espoir, qui croyaient en lui. Lisons ce que la parole de Dieu, l'évangile de Jean, nous dit dans ce chapitre 20. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit. Et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ?» Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Où est passé Jésus-Christ? On peut comprendre la détresse de cette femme parce que pendant 3 ans, elle a vécu à proximité, dans l'intimité de Jésus-Christ. Et avec lui, elle a vécu, elle a vu des choses absolument extraordinaires. Et les évangiles nous racontent en détail tout ce que Jésus a fait. Le pasteur en a parlé tout à l'heure, notamment dans l'évangile de Marc qui résume cela. Il est dit que Jésus a guéri beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, qu'il a chassé aussi beaucoup de démons. Et Marie de Magdala le savait bien puisque elle était particulièrement reconnaissante à Jésus. Elle en avait fait l'expérience. Vous pensez peut-être que vous avez des problèmes. Marie de Magdala était possédée de 7 démons. Nous dit l'Écriture. Et l'Évangile nous dit que Jésus l'en a délivré. On peut imaginer combien cette femme était reconnaissante à Jésus. Imaginez que quelqu'un vous libère de la cupidité, de l'égoïsme, de la convoitise, de la jalousie, de la pureté, de l'amertume et de la peur de la mort. Est-ce que vous ne lui seriez pas reconnaissant? Il est difficile d'imaginer comme c'était passionnant de vivre avec Jésus. À côté de Jésus. Les gens disaient de lui, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Jésus était surprenant dans toute sa vie, absolument différent, une vie parfaite, sans le moindre faux pas, une vie sans défaut, une vie sans péché, une vie sans compromis. Il a pu dire à ses adversaires, qui de vous me convaincra de péché? Et personne ne s'est jamais levé pour le pointer du doigt et lui dire, tu es un pécheur. Qui pourra en dire autant? Certainement pas moi, et sans doute pas vous non plus, n'est-ce pas? Jésus a totalement bouleversé les normes de son temps. Il a mis chacun sur un pied d'égalité. Vous savez, À l'époque, c'était un peu comme à notre époque, il y avait les gens étaient divisés, répartis dans des classes sociales. L'égalité n'existait pas vraiment. Mais il y a au moins un point sur lequel Jésus nous a mis tous sur un pied d'égalité, et ce point, c'est le péché. Les gens croyaient qu'avoir une vie honnête, c'était suffisant. Et beaucoup de gens croient encore cela aujourd'hui. Et s'il y a un Dieu, le bien que j'ai fait devrait compenser le mal que j'ai pu faire. Et on espère qu'en définitive, en fin de compte, la balance va pencher du bon côté. Mais Dieu ne va pas faire deux colonnes, d'un côté nos bonnes actions, d'un autre côté nos mauvaises, et peser les deux, non. Nous sommes tous pécheurs, nous dit la Bible. Et c'est pas un problème d'action. C'est une question de nature, c'est pas une question de quantité, d'avoir fait plus ou moins de mauvaises actions, non. C'est une question de nature. Nous sommes mauvais parce que notre nature est mauvaise. Notre cœur est mauvais. Voilà ce que dit la Bible. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Et même nous-mêmes, nous ne connaissons pas à quel point notre cœur est mauvais. Parfois, nous sommes encore surpris. Surpris par les pensées que nous pouvons avoir, n'est-ce pas? Vis-à-vis de telle personne. Qui nous a fait du mal. Réaction dans telle ou telle circonstance. Il dit, mais comment est-ce que je peux être comme ça? C'est pas une question d'accès, c'est une question de nature. Nous sommes comme ça. Nous n'avons pas été créés, l'homme n'a pas été créé à l'origine comme cela, mais par la désobéissance d'Adam et de Ève, toutes les générations qui ont suivi ont été marquées par le péché. En définitive, peu d'hommes ont suivi Jésus-Christ. Et vous voyez qu'il y avait quelques personnes qui se rendaient au tombeau, Marie de Magdala, notamment, il avait pris autour de lui 12 hommes ordinaires comme disciples, des gens qui n'avaient pas de diplôme, des gens comme vous, comme moi. Il y avait des femmes aussi qui le suivaient, comme Marie de Magdala. Alors, ils ne comprenaient pas tout ce que Jésus disait, mais quand Jésus parlait, c'était tellement lumineux, c'était tellement différent de ce qu'ils entendaient. Et quand Jésus leur parlait du royaume de Dieu, il faisait naître en eux un espoir qui remplissait leur cœur et qui leur permettait d'oublier la grisaille de leur vie. Quand on regarde les nouvelles aujourd'hui, on n'entend parler que de crise, crise économique, faillite, crise politique, famine, conflit, injustice, violence, et on aimerait tellement que quelqu'un nous parle d'autre chose, nous apporte un espoir, nous donne une espérance. Trois ans, ces disciples ont été dans l'intimité de Jésus, l'ont suivi, l'ont vu faire tous ces miracles, l'ont écouté parler, et puis brusquement, il est arrivé un jour sombre, alors qu'il était avec ses disciples dans le jardin de Gethsémané, des soldats sont venus arrêter Jésus, et ça a été très vite. Après une parodie de procès, on a condamné Jésus, alors qu'il n'avait rien fait de mal. On l'a cloué sur une croix. Il était là, seul, livré à ses bourreaux, et après 6 heures d'agonie, il est mort, dans l'indifférence générale. Oh, c'est bien fait, diront les uns. C'est dommage, diront les autres. Mais qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui? Voilà, ce n'est peut-être qu'un idéaliste incompris de plus, mort pour ses idées. Mais Jésus est-il seulement ça? Un homme exceptionnel, un idéaliste, quelqu'un qui n'a pas été compris à son époque, rien de plus. Est-ce que la mort du Christ sur la croix est seulement l'épilogue tragique d'une vie hors du commun? Pour Marie et pour ses disciples, c'est l'effondrement. Il faut quand même réaliser qu'ils avaient mis tout leur espoir en Jésus. Et ces espoirs s'écroulent au moment où Jésus est là sur la croix et où il rend l'esprit dans un grand cri. Il n'y a pas de sentiment plus terrible que de voir ses espoirs déçus. Peut-être que vous avez connu ça un jour. Et Marie de Magdala, on était là, elle a espéré jusqu'à la dernière minute. Elle s'est dit, il va se passer un miracle. Il a tellement fait de miracles pour les autres. Alors pourquoi est-ce qu'il ne fait pas un miracle pour lui-même, pour une fois? Et tous ces gens-là, en dessous de la croix, lui disent, mais si tu es le Fils de Dieu, fais un miracle, descends de ta croix, ils ne croiront en toi. Et Jésus ne l'a pas fait. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Pourquoi? Et Marie ne comprend pas. Pourtant, Jésus avait prévenu ses disciples de sa mort. Il avait même dit comment ça se passerait. Il a dit dans Jean 12, verset 32, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et ce texte fait référence évidemment à la croix où Jésus a été cloué. Mais Qu'y a-t-il d'extraordinaire à prédire sa mort? Je peux prédire ma propre mort avec un certain degré de certitude. Et je pense que vous pouvez faire la même chose. Tout le monde doit mourir un jour. Tout le monde doit mourir un jour, chers amis. Même vous. Même vous. Vous savez, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, mais un jour on y sera de toute façon confronté. Est-ce que vous êtes prêt pour cette échéance? Le président François Mitterrand a dit un jour, je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas. Et on est comme ça, n'est-ce pas? On sait, mais on ne veut pas le croire. On repousse l'échéance. Parce que, vous savez, inconsciemment ou non, la pensée de la mort, la pensée de la mort nous révulse. La mort, c'est une intruse. La mort, c'est une anomalie. Nous sommes ici pour vivre. Alors, pourquoi est-ce que nous devrions mourir? Et c'est pour ça que nous ne voulons pas penser à la mort. Nous avons un tel appétit de vivre, n'est-ce pas? Et les disciples ne voulaient pas croire non plus à la mort de Jésus, parce que Jésus paraissait tellement fort, tellement solide. S'il y a bien quelqu'un en qui on pouvait mettre sa confiance, c'est lui. Parce qu'il avait une telle autorité, il se dégageait de lui une telle force de conviction, une telle assurance. Mais comment est-ce que je peux lui faire confiance alors qu'il n'est plus qu'un cadavre qu'on décroche de la croix? C'est vrai que Jésus avait aussi annoncé sa résurrection. Il avait annoncé sa mort, ça c'est plus normal, mais sa résurrection, ça ce n'est pas banal. Il l'avait fait trois fois également. Mais vous savez, pour les disciples, le cœur n'y est plus et Marie est complètement cassée. Elle ne veut plus y croire. Alors quand elle met Jésus-Christ dans la tombe, elle s'accroche au souvenir qu'elle a de lui, elle se dit, pendant encore un moment, je vais essayer de me rappeler les bons moments que j'ai passés avec Jésus. Et c'est pour ça qu'elle va au tombeau, elle veut entretenir la mémoire de ces moments passés avec lui, avant que le temps ne fasse son œuvre et puis qu'il ne referme le puits de l'oubli. Et voilà pourquoi elle va, dès qu'elle le peut, après le sabbat, quand elle peut de nouveau se déplacer, elle se rend sur la tombe. Elle veut rendre un dernier hommage à celui qui l'a délivré de ses chaînes. Alors imaginez la détresse de cette femme, quand elle découvre que même son cadavre a disparu. Mais où est-il? Où est Jésus-Christ? Où est le Fils de Dieu? Chers amis, le monde retentit aujourd'hui du même cri. Où est Dieu? Et ce cri, le psalmiste l'exprimait déjà dans le psaume 42, lorsqu'il écrit « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Où est Dieu ?» C'est la question moqueuse de ceux qui observent certaines églises, des églises qui portent le nom de chrétiennes, mais où Jésus-Christ n'est plus annoncé, il y en a malheureusement. Et les chrétiens sont interpellés aujourd'hui par les non-chrétiens, ils nous adressent la même requête que ces Grecs qui sont venus un jour à Jérusalem à la fête, et ces Grecs qui ont fait une demande aux disciples Philippe, ils ont dit « Nous voudrions voir Jésus !» Nous voudrions voir Jésus. Ils nous disent « Vous parlez beaucoup de Jésus, mais vous ne le montrez pas. » Ils ne nous reprochent pas l'absence de Jésus dans le monde, ils nous reprochent l'absence de Jésus dans nos vies. Le philosophe Nietzsche a répondu à sa façon à cette question « Où est Dieu ?» Et dans plusieurs de ses livres, il dit, il insiste là-dedans, et ça a été repris depuis comme une philosophie de vie, « Dieu est mort. Dieu est mort, nous l'avons tué. » Il avait raison sur un point. En Jésus-Christ, c'est vrai, Dieu est mort. C'est Dieu fait homme qui est mort. Et ce sont bien les hommes qui l'ont fait mourir sur une croix. Et Nietzsche dit aussi une autre chose, et un reproche qu'on doit accepter. Il a dit, « Je croirai au Rédempteur quand je verrai les chrétiens un petit peu plus rédemptés. » C'est une façon de se moquer. Il voulait dire ceci, vous dites que Dieu transforme les vies. Je croirai en Dieu quand je verrai vos vies transformées. Parfois, beaucoup de ceux qui fréquentent les églises se comportent comme si Jésus-Christ était encore dans la tombe. Ils sont comme les disciples de Jésus, selon ce que nous dit le verset 20. Ils ne comprennent pas encore que, selon ce qu'annonçait l'Écriture, Christ est ressuscité des morts. Ils ne vivent pas la résurrection dans leur vie, ils ne vivent pas cette vie nouvelle de Jésus-Christ dans leur vie. Et la Bible dit pourtant, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Si nous sommes restés seulement à la mort de Jésus, et si nous ne vivons pas aussi la résurrection de Jésus dans notre vie, n'est-ce pas, nous sommes encore dans nos péchés. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jugement de Dieu reste la seule option, nous dit la Bible. Et la Bible est claire aussi, elle nous dit qu'un jour Dieu va juger le monde. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ne changera pas cette réalité. Chacun de nous va comparaître devant Dieu et nous devrons lui rendre des comptes pour nos paroles, nos actes, nos pensées. Tout ce qui n'aura pas été couvert par le sang précieux de Jésus-Christ, qui efface le péché du monde. Tout ce qui n'aura pas été confessé à Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, sera dévoilé devant tous. Où est Dieu ? Où est Dieu ? C'est la question terrifiée de toutes ces populations de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, d'Égypte, et tant d'autres foyers de violence dans le monde où des hommes, des femmes, des enfants sont sacrifiés à la folie de la violence, de la guerre. Et le pire, voyez-vous, c'est de justifier toute cette violence au nom de Dieu. Je ne sais pas au nom de quel Dieu des hommes peuvent prendre prétexte de tuer d'autres hommes. Mais ce n'est pas au nom du Dieu de la Bible. Parce que dans ce livre, vous ne trouverez aucune incitation à la haine. Et dans le parcours de Jésus-Christ, alors qu'il avait le pouvoir de vaincre ses ennemis, même lorsqu'il était sur la croix, vous ne trouvez qu'un message brûlant d'amour pour tous ceux qui veulent le recevoir. Où est Dieu ? C'est aussi la question cynique de ceux qui méprisent les valeurs de l'Évangile. Vous savez que depuis quelques dizaines d'années, maintenant, nous vivons un changement moral brutal et que ce n'est pas une petite évolution, n'est-ce pas ? C'est une mutation majeure. Mais ces dernières années, c'est comme si la machine s'était emballée. Tous les freins moraux sont relâchés. Et les valeurs chrétiennes qui ont forgé notre société ne sont plus seulement contestées, elles ont disparu. On a pratiquement débarrassé la société de l'idée de Dieu. Et on a laissé place à une vision centrée sur l'homme. Et je lisais ce titre dans un magazine, « L'humain et ses ressources intérieures sont devenus l'ultime espoir d'un avenir meilleur. » Eh bien, mes amis, si c'est le cas, si c'est l'être humain, notre seul espoir, que nous voyons ce que fait et ce que font les hommes aujourd'hui, on est mal embarqué. Le psychanalyste Tony Anatrella a écrit dans Paris Match « Nous payons cher la mort de Dieu ». Nous payons cher aujourd'hui, n'est-ce pas, la mort de Dieu. Est-ce que l'homme peut être fier de lui lorsqu'il voit le gâchis dans lequel il laisse le monde ? Il n'y a pas d'avenir, sachez-le, pour une société sans Dieu. Il n'y en a pas. La Bible dit « L'Éternel sera avec vous tant que vous serez avec lui ». Si vous vous attachez à lui, il interviendra en votre faveur. Si vous l'abandonnez, lui, il vous abandonnera. 2 Chroniques 15:2. Vous savez, l'être humain, on pourrait le comparer à un plongeur sous-marin. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font de la plongée sous-marine, alors vous comprendrez ce que je vais dire, mais je crois qu'on sait tous ce que ça représente. Donc, un plongeur sous-marin qui décide de descendre plus bas, de plus en plus bas sous l'eau. Et vous savez, plus on descend bas, plus on se sent libre. C'est un peu ce sentiment de liberté qu'on trouve dans le film, par exemple, Le Grand Bleu. Mais c'est un sentiment trompeur, parce que plus on descend bas et plus on devient sensible à un phénomène qui est bien connu des plongeurs, qui s'appelle l'ivresse des profondeurs. Et ce qu'on risque, c'est de se noyer, alors qu'on est euphorique, sans s'en rendre compte. Eh bien l'homme, c'est la même chose, il ne se rend pas compte qu'il est en train de se noyer. Il descend de plus en plus bas dans sa déchéance morale, et plus il descend, plus il a l'illusion, plus il a l'ivresse de la liberté. Mais la Bible dénonce cette fausse sécurité dans le Deutéronome 29, 19. Elle dit que personne ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix ». Quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Que personne ne s'illusionne. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu, par la bouche du prophète Ésaïe dans le chapitre 57, verset 21. Où est Dieu ? La question a été posée très clairement après les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Et quelqu'un a répondu à cette question. Dieu, ben, il est tout simplement là où nous lui avons demandé d'aller. Vous savez, nous avons demandé à Dieu de sortir de nos églises, de nos écoles, de nos sociétés. Nous lui avons demandé de sortir de nos vies. Alors Dieu est un gentleman. Il a fait ce que nous lui avons demandé. Il est sorti de nos vies. Alors quand ça ne va pas, on aimerait bien que Dieu revienne. Reviens, Seigneur, reviens, viens me sortir de mes problèmes. Mais Dieu n'est pas comme ça. Nous n'avons pas voulu de lui. Il reviendra seulement si nous sommes sincères, quand nous crions à lui. Si notre désir de venir, ce n'est pas simplement de nous sortir de notre problème, c'est de changer véritablement nos vies. Ce serait facile, évidemment, d'avoir un Dieu qui absolve tous nos péchés et qui viendrait nous retirer de tous nos problèmes. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous changer. Dieu veut intervenir dans notre vie. Dieu veut être la personne la plus importante de notre vie. Il veut véritablement nous transformer de l'intérieur. Où est Dieu? C'est une question qu'on peut se poser lorsqu'on est atteint par la maladie et qu'on souffre et qu'on est à bout de souffrance et qu'on ne sait plus quoi faire quand les épreuves, les échecs, le deuil, la solitude nous submergent. La Bible nous montre que Jésus-Christ a répondu de quatre manières à la souffrance des hommes. Il a d'abord répondu par la compassion. Jésus était ému de compassion lorsqu'il voyait les gens autour de lui, leur misère spirituelle et morale, leur souffrance spirituelle. Il était ému de compassion de voir ces gens qui sont comme des brebis, qui n'ont pas de berger. Deuxièmement, il a partagé la souffrance. Il a connu, nous dit la Bible, dans son corps, dans son esprit même, toute la souffrance que connaissent les êtres humains. C'était l'homme de douleur, c'était l'homme habitué à la souffrance, nous dit le prophète Ésaïe. Troisièmement, il a soulagé la souffrance, parce que c'est bien beau d'être sensible à la souffrance des autres si je ne fais rien, mais Jésus, dès que quelqu'un s'approchait de lui en lui disant « Seigneur, sauve-moi », il le sauvait, il le guérissait, il le délivrait, il le nourrissait. Et quatrièmement, Jésus a porté notre souffrance. Il a porté nos péchés, notre souffrance, par sa mort sur la croix. Où est Dieu? C'est la question arrogante de ceux qui se croient capables de résoudre, sans lui, tous les problèmes humains. Dans les années 90, on a cru qu'on allait résoudre tous les problèmes de société grâce à l'aide humanitaire. Vous savez, l'aide humanitaire, c'est une minorité d'hommes qui essayent de réparer les dégâts causés par la majorité. En soi, c'est louable, mais je pense qu'en tant que chrétien, on ne peut qu'être d'accord et que favoriser, encourager l'aide humanitaire. D'ailleurs, beaucoup d'associations ou de groupements humanitaires, à l'origine, étaient chrétiennes. Mais qu'en est-il aujourd'hui de l'aide humanitaire? Les gens n'y croient plus. Et les gens donnent de moins en moins. J'écoutais à la radio il y a quelques jours que le consortium 12-12 avait de plus en plus de mal à récolter de l'argent pour aider les victimes de la guerre en Syrie. Les gens ne veulent plus donner. Ils n'y croient plus. Et ça nous montre toutes les limites de l'action humanitaire dans tous ces pays. Tout ça nous montre l'impuissance de l'homme à régler les problèmes. On ne manque pas de moyens. C'est la volonté qui nous manque, n'est-ce pas? Vous savez, les hommes ont voulu récupérer à leur profit certaines valeurs du christianisme. On dit, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. On a la fraternité, on a la solidarité, on a la justice sociale. Toutes valeurs qui sont dans la Bible, à l'origine, qui sont en Dieu, dans sa nature profonde, dans sa personne. Toutes ces choses. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, ces gens, c'est que ces valeurs sont le prolongement de celui qui les incarne. Ils n'ont pas compris que sans Jésus-Christ, toutes ces valeurs sont sans valeur. Ils n'ont pas compris que ce qui change les hommes, ce ne sont pas des principes, ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas des valeurs. Ce qui change les hommes, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et vous, chers amis, l'avez-vous compris? À quoi sert de dénoncer les injustices? À quoi sert de soulager la détresse des hommes si ça ne les rapproche pas de Dieu et des autres? Si ça ne sauve pas leur âme pour l'éternité? La Bible dit, on crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur? Où est Dieu, mon Créateur? Quel est votre avis sur la question? Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Je ne me demande pas si vous êtes d'accord avec le curé, le pasteur ou l'imam sur cette question. Si vous avez une vague croyance dans un Dieu imprécis, je vous parle du vrai Dieu, le seul vrai Dieu qui est révélé dans la Bible. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Qu'il existe aussi pour vous et qu'il veut vous rencontrer? C'est ça qu'il attend de vous. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu, il y a d'abord un pas à faire. Dieu s'est approché de nous suffisamment près, n'est-ce pas? Il reste un pas à faire. Et la Bible nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire. Il doit croire d'abord qu'il existe, c'est le premier pas. Et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Parce que Dieu, ce n'est pas le Dieu qui dit non. C'est le Dieu qui dit oui à celui qui lui demande quelque chose. Demandez, vous recevrez, a dit Jésus. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Dieu est le Dieu du oui. Et en Jésus-Christ, c'est en lui qu'est le oui, nous dit la Bible. Alors peu importe que vous ayez répété depuis votre naissance que Dieu existe, ou peut-être que vous le croyez, vous l'entendiez pour la première fois, ce qui est important, c'est que vous sachiez, c'est que vous croyez aujourd'hui que Dieu existe, mais que Dieu existe pour vous personnellement. Il veut vous rencontrer. Vous savez, il n'y a que la Bible qui nous parle d'une relation personnelle avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez une connaissance des autres religions, mais il n'y a que la Bible, il n'y a que le christianisme qui nous parle d'une relation personnelle avec Dieu. Dans toutes les autres les religions, le christianisme n'est pas une religion, c'est ça qui fait la différence, c'est une relation. On dit que c'est une relation parce que dans les autres religions, on ne trouve pas cette relation avec Dieu. Vous n'arrivez pas à entrer en contact avec Dieu, il est trop loin, il est inaccessible. Dieu veut être un père et faire de nous ses enfants. Où est Dieu? C'est la question angoissée que se posent les jeunes aujourd'hui, parce qu'ils ne savent pas faire face à leur désarroi moral. Vous savez, les observateurs de la jeunesse mettent en évidence aujourd'hui la perte d'idéal chez les jeunes. Il n'y a plus d'idéal aujourd'hui chez les jeunes. Le seul idéal, c'est d'essayer de se faire son trou dans la vie, c'est la réussite. Et c'est de profiter au maximum des plaisirs, avec tous les excès, comme aller jusqu'à boire, jusqu'à l'ivresse totale, avec parfois les accidents qu'on a connus ces derniers temps. Beaucoup de jeunes sont comme Marie de Magdala. Elle est assise devant le tombeau vide du Christ. Elle ne réalise pas que c'est son cœur qui est vide. C'est son cœur qui est vide. Jésus est là. Le texte nous dit qu'il est à côté d'elle, il est tout près. Et les gens ne réalisent pas à quel point Jésus est proche. Et vous ne réalisez peut-être pas à quel point Jésus-Christ est proche de vous. Il est là, à côté, comme avec Marie. Et il s'approche et il dit, qui cherches-tu? C'est Jésus qu'elle cherche. Il est là, tout près d'elle, mais elle ne le voit pas. Où est Dieu? C'est la question que ne se pose malheureusement plus la grande majorité des gens, parce qu'ils souffrent de ce que l'écrivain Honoré de Balzac a appelé cette mort du cœur qui s'appelle l'indifférence. Je disais tout à l'heure dans le Vif L'Express, Elie Wiesel, le prix Nobel de la paix, qui était interviewé. Elie Wiesel, c'est un survivant de la Shoah, des camps de concentration nazis, n'est-ce pas? Il a dit, je ne combats pas le mal, je combats l'indifférence au mal. L'indifférence, quelle maladie. Maladie de notre siècle. Alexandre Solzhenitsyn, un autre prix Nobel de la paix, a dit, si l'on me demandait de dire clairement quelle est la plus grande menace de tout le siècle, je ne trouverais rien d'autre à dire que ceci. L'homme a oublié Dieu. Où est Dieu? Les hommes rendus responsables de leur malheur alors qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. C'est ce que dit la Bible. S'ils se sont corrompus, à Dieu n'est pas la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père? N'est-il pas ton Créateur? Comment peut-on imaginer que Dieu, notre Créateur, notre Père, puisse nous vouloir du mal? Où est Dieu? Cette question, c'est souvent l'expression de notre révolte contre lui, de notre désobéissance, et là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de notre péché. Et les hommes se retrouvent aujourd'hui dans une situation désastreuse parce qu'ils ont rejeté Dieu, ils l'ont écarté de leur vie, ils disent que Dieu est mort, ils ne réalisent pas que ce sont eux qui sont morts, parce qu'ils sont séparés de Dieu. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que le péché concrètement? Le péché, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Et qui de nous a toujours obéi au commandement de Dieu en toutes circonstances? Qui? Par Jésus. Personne, n'est-ce pas? Vous savez, si vous brûlez un feu rouge, deux choses peuvent se passer. Premièrement, vous pouvez provoquer un accident avec des conséquences pour vous-même, pour les gens, les passagers qui sont avec vous. dans votre voiture, et vous pouvez entrer en collision avec une autre voiture, avec des blessés ou des morts dans l'autre voiture aussi. Et deuxièmement, vous pouvez recevoir un PV, et ensuite une condamnation au tribunal de police. Il y a donc deux sanctions. Il y a une sanction immédiate, c'est la conséquence de l'acte qu'on commet, puis il y a une sanction juridique, une sanction future, un jugement. Mais c'est la même chose quand nous péchons. Il y a une sanction immédiate, qui est le mal que nous faisons aux autres, le mal que nous faisons à nous-mêmes, l'offense que nous faisons à Dieu avec ses répercussions dans la famille, dans la société, avec toute cette culpabilité que nous traînons. Et puis il y a une sanction qui viendra plus tard, qui est le jugement de Dieu et la mort éternelle si nous n'avons pas été réconciliés avec Dieu. Pas vu, pas pris, vous connaissez le dicton, pas vu, pas pris, je continue, mais jusqu'au jour où. C'est le péché qui provoque la plupart de nos problèmes et de nos maux, écrit David Wilkerson. Nous sépare de Dieu, le Dieu qui est saint, il nous sépare de nos semblables, il crée la confusion, le chaos à l'intérieur de notre vie. La vraie question à se poser est la suivante. Où est Dieu? Comment peut-il me délivrer de mon péché? Voilà la question à se poser. Et la Bible nous donne la réponse. Elle nous donne cette réponse dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Où est Dieu? Écoutez bien ce qu'il est dit. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Où est Dieu? Je relis le verset. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. La Bible nous dit que Jésus est Dieu, Dieu fait homme. Et il est en quelque sorte cette main tendue de Dieu vers les hommes qui l'ont rejeté, ces hommes qui se sont rebellés contre lui. Nous ne pouvons pas aller jusqu'à Dieu, il y a une séparation entre nous et Dieu. Alors c'est lui qui est venu vers nous. Il est cette réponse concrète au cri du prophète Ésaïe qui dit « Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» C'est exactement ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? À travers son Fils, Dieu a quitté la gloire du ciel pour prendre la condition humaine. Il est venu comme un simple homme, nous dit la Bible, et même il est venu comme un esclave, comme un serviteur, parce qu'il a dit qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Marc 10, 45. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il est venu pour donner sa vie en rançon. Et vous savez ce que c'est qu'une rançon, n'est-ce pas? C'est une somme d'argent qu'on doit payer pour la libération des otages. Vous savez bien ce qui arrive quand la rançon n'est pas versée. Habituellement, les otages sont tués. En tant que pécheurs, nous sommes les otages du péché. Et le mal nous enchaîne, le mal nous conduit à la mort. Et la rançon demandée par Dieu pour libérer les otages, pour déclarer juste les coupables, c'est la mort d'un innocent. Mais personne n'est innocent, personne n'est coupable parmi les êtres humains, puisque nous sommes tous pécheurs. Alors, puisque personne ne peut payer ce prix en dehors de Dieu, Dieu a décidé de payer lui-même ce prix. Vous savez, un otage ne peut pas payer sa rançon, n'est-ce pas? Un prisonnier ne peut pas s'y libérer lui-même. Dieu a donc décidé de payer ce prix. Il a envoyé son Fils pour payer la rançon. Et Jésus-Christ est lui-même la rançon. C'est sa vie qu'il donne qui est sa rançon, qui est la rançon. La Bible nous dit qu'il a subi la punition que nous méritions. Devions mourir à cause de notre péché. Et lui qui était innocent, il est mort pour nous. Il est mort à notre place. La Bible dit que c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Où est Dieu? Disiez-vous. Mais il est là en Jésus-Christ, il est là, cloué sur une croix, il est là souffrant la mort pour les coupables, et c'est pour vous, c'est pour moi qu'il est mort sur cette croix. Ce sont vos péchés, ce sont les miens qu'il a portés sur la croix pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons libres du péché. Alors vous demandiez où il était, parce que vous comprenez que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, c'est pour vous qu'il était là. Il veut que vous le sachiez. Vous savez, la mort du Christ sur la croix, c'est l'acte le plus désintéressé qui soit. Jésus-Christ n'y a rien gagné, Dieu n'y a rien gagné, nous en sommes les seuls bénéficiaires. Alors pourquoi a-t-il fait ça? Parce que la nature de Dieu, c'est amour. Dieu est amour. Et c'est par amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous aime d'un amour infini, parce qu'il veut absolument nous réconcilier avec lui, parce qu'il veut que nous le connaissions comme un père, qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix. La Bible dit que Dieu est riche en bonté. Quelle est l'image que vous avez de Dieu? Peut-être terrible, un juge impitoyable. Non, la Bible ne nous dit pas encore maintenant. Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, et il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Éphésiens 2, 4 et 5. Jésus-Christ n'est pas resté dans la tombe. Les disciples croyaient qu'il était toujours dans la tombe, mais il n'est pas resté. Dieu l'a ressuscité pour attester qu'il accepte le paiement de cette rançon. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ a vaincu la mort et le péché. Il est quelqu'un digne de confiance. La résurrection de Christ est la preuve qu'il est la vérité. S'il était resté dans la tombe, on aurait raison de ne pas croire en lui. Mais il est ressuscité. Nous pouvons mettre notre confiance en lui parce que tout ce qu'il a dit s'est accompli. Et vous savez, Marie ne voulait pas comprendre cela. Elle pleurait. Elle s'apitoyait sur elle-même, sur sa détresse. Elle ne voyait pas le Seigneur Jésus vivant. Incroyable. Il était là, à côté d'elle. Elle ne l'a même pas reconnu. Elle ne pouvait pas imaginer que Jésus soit vivant. Et vous, est-ce que vous croyez aujourd'hui que Jésus-Christ est vivant? Qu'il est vivant pour vous? Et il a fallu que Jésus l'appelle par son prénom, Marie. Qui d'autre que Jésus pouvait la connaître si bien? Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que nous lisons dans le texte qu'elle le reconnaît. Il appelle par son prénom, elle le reconnaît. Et Jésus-Christ s'adresse à vous aujourd'hui avec la même douceur. Et il chuchote votre prénom. Il vous appelle par votre nom. Est-ce que vous allez le reconnaître? Est-ce que vous allez entendre sa voix lorsqu'il vous appelle? Votre problème n'est plus maintenant de savoir où est Jésus-Christ, puisque la Bible nous dit qu'il siège à la droite de Dieu et qu'il attend le moment qui est choisi par Dieu pour venir rechercher ceux qui lui appartiennent. Et entre-temps, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous change, qui reconstruit en nous une nouvelle personne et qui établit une relation profonde avec Dieu. Non, le problème pour vous, ce n'est pas de savoir où est Christ. Votre problème, peut-être, c'est que Jésus-Christ n'est pas à la place où il doit être, c'est-à-dire dans votre cœur. Peut-être que vous avez vécu des années dans l'Église, à proximité de lui, sans l'avoir reconnu pour ce qu'il est, comme Marie qui était à côté de Jésus, qui ne le reconnaissait pas. Peut-être que vous êtes venu des années dans l'Église sans jamais avoir reconnu Jésus tel qu'il est. Voulez-vous qu'il le fasse maintenant? Voulez-vous qu'il entre dans votre vie, qu'il dirige votre vie? Que devez-vous faire? La Bible nous parle de deux choses et je termine avec ça. Elle nous parle de la foi et de la repentance. La foi, c'est quoi? C'est croire, c'est mettre sa confiance en Jésus-Christ sincèrement, c'est de le reconnaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Sauveur qui a porté mon péché sur la croix, qui est mort à ma place. Vous savez, si vous ne personnalisez pas ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix, il n'y aura jamais de changement dans votre vie, jamais de conversion. La foi, c'est ça, c'est pas quelque chose de vague. C'est pas je crois en Dieu et je crois que Dieu sauve tous les hommes. Non, je crois que Jésus-Christ est mon Sauveur, qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Et c'est une décision personnelle, cet engagement de foi, qui va se passer entre lui et vous. Je vais vous demander, dans quelques instants, de prendre cette décision. Mais il y a un deuxième aspect dans l'engagement que Jésus nous demande, qui est la repentance. C'est un engagement qui engage tout notre être, notre intelligence, nos sentiments et notre volonté. C'est avec notre intelligence que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs perdus et que nous ne pouvons rien faire pour être sauvés, et que notre seul espoir, c'est dans la croix de Jésus-Christ. Mais c'est avec nos sentiments que nous ressentons cette tristesse profonde, sincère, d'avoir offensé Dieu par notre péché. La Bible appelle cela la tristesse selon Dieu, une tristesse qui produit la repentance et qui nous conduit à salut. C'est ça que nous devons ressentir. Mais Jésus-Christ fait aussi appel à notre volonté. Avec votre volonté, vous devez prendre une décision. Vous devez décider de soumettre toute votre vie à Jésus-Christ. Vous devez le reconnaître non seulement comme votre Sauveur, mais aussi comme votre Seigneur. Vous ne devez rien garder, vous devez tout lui abandonner. Et c'est souvent ici que ça coince. Parce que beaucoup de gens commencent les deux premières étapes. reconnaissent qu'ils sont pécheurs, ils éprouvent de la culpabilité, mais ils ne veulent pas soumettre leur vie à Jésus-Christ. Voyez-vous, la repentance engage notre volonté. Jésus-Christ ne nous forcera pas la main. Le philosophe Jean Guiton a écrit « La repentance est bien plus qu'une simple pénitence. Elle implique un changement d'état d'esprit. Elle implique de renoncer à son propre esprit. Sans cette révolution intérieure, l'Évangile ne pénètre pas les âmes. » Voyez-vous, Jésus-Christ ne s'est pas offert à moitié pour nous sur la croix. Il est allé jusqu'au bout de la souffrance, par amour. Et l'engagement qu'il vous demande aujourd'hui et maintenant est total. Il veut être le Seigneur de votre vie, sinon rien. Pas moins que cela. Alors, voulez-vous prendre cette décision maintenant? Voulez-vous changer de comportement? Il suffit de déverrouiller la porte de votre cœur. Où es-tu, Seigneur? Eh bien, voilà la réponse qu'il nous donne à ce moment précis. Il dit, voici, je me tiens devant la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce que tu entends la voix de Jésus? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi, et ce sera le début d'une relation extraordinaire et je remplirai ta vie de ma personne, de ma nature. Juste un mot et nous prions. Seigneur Jésus a montré qu'un engagement demande des actes concrets parce que lui, il a pris position pour nous, sans réserve. Il a demandé à ses disciples de prendre position pour lui, publiquement. Il a dit, la Bible nous dit, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Quand nous aurons prié, je vous demanderai de manifester publiquement votre engagement, votre décision pour Jésus-Christ. Je vous demanderai de faire un geste, de lever simplement votre main à l'appel de Jésus, pas pour moi, mais pour lui. Juste quelques instants, nous pouvons prier pour vous. Je vous invite à prier. Je vous invite à fermer les yeux, à baisser la tête, à entrer dans un moment de recueillement. Peut-être que vous ne savez pas comment lui parler, parce que vous n'en avez pas l'habitude. Si, parlez-lui avec vos propres mots, mais vous pouvez lui dire ceci si vous ne savez pas comment prier. Dites-lui, Seigneur Jésus, j'ai passé par bien des crises dans ma vie, je ne réalisais pas que c'était moi qui étais responsable de la plupart. Je ne réalisais pas, Seigneur, qu'à la base de mes problèmes et des problèmes de l'humanité, il y a mon péché, particulièrement mon péché, Seigneur. J'avais tendance de reporter la faute sur les autres ou de reporter la faute sur toi. Je t'ai demandé plusieurs fois où tu étais quand j'avais des problèmes. Et je n'ai pas vu que tu étais là à côté de moi. Je n'ai pas vu non plus que parfois tu me portais. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris que tu n'étais pas à la place où tu dois être, c'est-à-dire dans mon cœur, parce que dans mon cœur, il y a du péché que je n'ai pas confessé. Dans mon cœur, Seigneur, il y a cette rébellion contre toi, cette envie de vivre ma vie sans toi en autonomie. Et je reconnais aujourd'hui, simplement, mais sincèrement, que je suis pécheur. Que je suis pécheresse. Dites-le-lui. Je reconnais que je suis pécheur. Seigneur Jésus, je sais que je ne peux pas changer par moi-même. C'est ma nature de pécheur. Je ne veux pas en faire une excuse, Seigneur, mais c'est la réalité. Et j'ai besoin de toi, dites-le-lui, j'ai besoin de toi. Mais tu as fait ce qu'il fallait. Tu as fait ce qu'il fallait, Seigneur, parce que tu es mort sur la croix. Et mon péché, tu l'as porté, Seigneur, tu l'as porté dans ton corps, sur le bois de la croix. De telle sorte, Seigneur, que tu ôtes non seulement le péché du monde, mais le mien en particulier. Et je le crois. Et je t'accepte comme mon sauveur. Et désormais, Seigneur, je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. Je veux t'ouvrir ma vie, Seigneur, pour que tu rentres. Et pour ça, Seigneur, je renonce à ma vie de péché, à ma vie d'avant, Seigneur. Je veux faire de la place pour toi. Tu ne peux pas cohabiter avec le mal. Je ne veux pas, Seigneur, avoir deux maîtres, c'est impossible. Je te demande simplement d'être mon maître. Et Seigneur, je te soumets ma vie, je sais que c'est difficile. Je sais qu'il y aura des moments où je ne serai pas à la hauteur, mais j'ai confiance en toi. Et je te demande, Seigneur Jésus, d'entrer dans ma vie de devenir non seulement mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Change ma vie profondément, Seigneur. Remplis-moi de ton amour, de ta paix et de ta joie. Fais de moi une autre personne transformée par l'amour de Jésus. Dis-lui cela. Change ma vie, Seigneur Jésus. Je me soumets à toi. Nous restons recueillis, nous restons les yeux fermés, la tête baissée, dans le respect, dans le silence. Et j'aimerais vous demander si vous avez pris cette décision, si vous avez fait cette prière dans votre cœur. Je voudrais vous demander maintenant de lever votre main là où vous êtes. Si vous avez dit « Oui, Seigneur Jésus, je mets ma confiance en toi », levez votre main maintenant, quelques instants. Si vous avez dit « Oui, oui, Seigneur Jésus, à partir de ce jour, Seigneur, je veux que tu diriges ma vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu sois mon maître. Tu as effacé mon péché, je mets ma confiance en toi. Tout mon passé, Seigneur, tu l'as couvert par ton sang précieux. Y a-t-il quelqu'un qui ait fait cette prière ? Vous levez votre main quelques instants et nous pouvons prier ensemble. Je sais que ce n'est pas facile et je connais les résistances qu'on a dans ces moments-là, les difficultés de dire oui. Parce que c'est quelque chose qui nous engage. Et on a peur, on se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce qui vous arrivera si vous ne dites pas oui à Jésus-Christ? Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, nous dit la Bible, n'endurcissez pas votre cœur. Dites, Seigneur Jésus, entre dans ma vie. Et votre main se lève quelques instants. Maintenant, nous pouvons prier. Y a-t-il quelqu'un? Je ne vais pas insister davantage. Je voudrais faire une dernière fois un appel. Oui, Seigneur Jésus, entre dans ma vie, aujourd'hui, et vous levez votre main. Et nous prions. Oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore quelqu'un? Pas prolongé, mais vous voyez, on est comme ça, j'étais comme ça aussi. Nous résistons à l'amour de Dieu. Il a tellement aimé le monde, il lui a dit qu'il a donné son Fils. Unique, afin que quiconque croit en lui, ce quiconque, c'est toi, mon ami. Toi qui résistes à Jésus. Depuis tant et tant d'années, je t'ai aimé. Je t'ai aimé d'un amour si grand, si profond, je voudrais que tu comprennes aujourd'hui. Arrête de me résister. Y a-t-il encore quelqu'un? Dites oui à Jésus-Christ. Levez votre main. Maintenant. Oui, vous pouvez baisser votre main. Oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore quelqu'un? C'est aujourd'hui le jour du salut. Permettez-moi d'insister, non pas pour vous forcer, non. Je n'aimerais pas quitter cette salle en disant, j'aurais voulu prendre cette décision, je ne l'ai pas prise. C'est pas grave, vous pouvez le prendre après, mais c'est aujourd'hui que vous entendez sa voix. Alors faites-le. Juste une dernière fois, nous arrêtons. Faites-le quelqu'un. Et nous prions. Encore quelqu'un. Seigneur Jésus, merci parce que ce qui a vaincu nos résistances, Seigneur, ce ne sont pas tes arguments. Ce n'est même pas ton exemple, Seigneur, c'est ton amour. Cet amour, Seigneur, que tu as démontré en mourant sur la croix pour nous. Et cet après-midi, trois personnes ont voulu, Seigneur, en témoigner. Ont voulu dire, oui, Seigneur Jésus, moi, Seigneur, devant cet amour, je capitule. Je te demande, Seigneur, de changer ma vie. Peut-être que d'autres ont pris cette décision dans leur cœur et nous prions pour eux aussi, Seigneur. Nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas pris cette décision et qui hésitent, qui résistent encore, Seigneur. Nous te demandons vraiment, Seigneur, de toucher leur cœur, de leur montrer à quel point tu les aimes et à quel point ils ont besoin de toi. Je te demande, Seigneur, d'être avec tous ceux qui ont pris une décision, que nous puissions les entourer comme des frères et des sœurs dans la famille de Dieu, Seigneur, et que nous puissions nous réjouir avec les anges dans le ciel pour des pécheurs qui se sont repentis, pour la gloire de ton nom. Amen. Simplement pour vous dire que Jacques...